Europe 1 Social Club, Frédéric Taddeï.
Les invités du Social Club sont Eric Emmanuel Schmitt pour son nouveau roman L'homme qui voyait à travers les visages, Christophe Denard qui publie L'innocent, Vincent Badré pour son enquête sur la manière dont l'histoire est enseignée aujourd'hui à l'école et au collège. Son livre s'intitule L'histoire politisée avec un point d'interrogation. Agnès Grossman qui publie Les salopes de l'histoire de Messaline Matahari et Beata de Robien, l'auteur d'une biographie de la fille de Staline, La malédiction de Svetlana, c'est son titre. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nouveau depuis le début des années 2000, Vincent Badré, sans dévoiler le contenu de votre livre dont on parlera tout à l'heure, dans l'enseignement de l'histoire, par exemple, qu'est-ce qui change d'après vous ?
Alors, eh bien, je dirais qu'il ne change pas grand-chose, et puisque depuis les années 80, on est toujours dans une impression de changement, on change les programmes pratiquement à chaque président.
Il y a des polémiques à chaque fois, en plus.
Il y a des polémiques à chaque fois, mais c'est toujours les mêmes, depuis 1979, et ce qui change, c'est que, finalement, on essaye d'être neutre. On est dans un balancier, comme un vieux coucou de province, un coup du côté du roman national, un coup de l'autre côté. Et aujourd'hui, l'époque devient plus grave, plus électrique, plus en demande de débat. Et donc, on a besoin d'essayer de sortir de ces alternances pour savoir si notre passé était blanc, noir ou gris, et pour passer à la couleur.
Christophe Denard, pour vous, qu'est-ce qu'on ferait de nouveau ?
Bah, plutôt le sexe, plutôt les jeunes, les enfants. C'est quelque chose qui a changé, quoi, la façon dont on envisage la sexualité des enfants, des adolescents, eux-mêmes la pratiquent, elle a changé.
Voilà. La masturbation, il en est beaucoup question dans L'innocent, comme on va le voir, mais c'est quelque chose qu'on n'abordait jamais pour moi avant les années 2000.
Non,
dans les livres, ni dans les films, alors que tous les films américains aujourd'hui parlent de la masturbation, qu'un bon nombre de films français et à peu près tous les romans français parlent de masturbation.
C'est un grand changement. Je pense que c'est aussi dû à Internet qui donne libre accès à la pornographie.
Et donc ça ne serait plus un tabou, ce serait ça ?
Bah oui, enfin je pense que tous les tabous sont faits pour tomber, donc celui-là il tombe aussi, et puis voilà, ça produit des choses pas inintéressantes mais assez compliquées, et puis je pense que ça c'est autre chose aussi qu'à part de le proprement dit du sexe proprement dit, c'est le pouvoir des enfants. Le pouvoir des adolescents. Je crois que c'est vraiment eux qui l'ont aujourd'hui. Ils s'en rendent pas compte. On fait comme s'ils l'avaient pas, mais en fait on leur donne tout le pouvoir, et voilà, c'est intéressant.
Beata de Robien.
C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la masturbation n'invente plus sourd?
Non. C'est même parfois, on a même tendance aujourd'hui à dire que c'est plutôt bon pour la santé, que ça développe l'imagination.
C'est une très bonne nouvelle.
Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Peut-être les travaux dans les archives, qui est un peu différente grâce au numérique. Quand j'ai écrit mes premiers livres d'histoire, quand c'était Eleanor Roosevelt ou les livres qui faisaient partie de l'histoire de la Pologne, c'était un travail pratiquement des chartistes dans les archives. Là, maintenant, c'est le numérique, c'est plus facile d'accès, on peut se faire envoyer une fois qu'on a un peu déblayer les terrains dans des archives. Bon, moi, c'est notamment à Moscou, c'est encore un tout petit peu, comme vous vous imaginez, difficile. En revanche, déjà aux archives, comme exemple de Hoover à Stanford,
Hoover Institute. C'est l'ancien patron du FBI.
Non, c'est pas non. Celui-là. C'est ancien président. Edgar Hoover n'a pas d'archives. Si, c'est des archives qui portent pas son nom.
Oui,
mais
les archives, elles ont disparu. Enfin, on les cherche.
On les a encore un tout petit peu, mais c'est l'Institut Hoover à Stanford, à l'université de Stanford, ou à Princeton, donc dans des universités américaines, qui sont extrêmement bien organisées maintenant. Ce n'est pas la même chose à Moscou, évidemment, qu'on s'en doute.
Eric Emmanuel Schmitt.
Moi, je vais vous donner une réponse qui a rapport au thème de mon livre, c'est la violence. Les moyens de communication de la violence ont changé. Justement, l'ère du numérique aussi n'a pas changé que la perception du sexe. Elle a changé aussi la diffusion de messages qui peuvent provoquer la violence. Et ce qui me frappe, c'est que quand il y a une révolution technologique qui permet la multiplication des connaissances, ça peut aussi permettre la multiplication de la violence. Je pense à l'invention de l'imprimerie, à la Renaissance, qui tout d'un coup ouvre une ère de combat religieux, de sectarisme, d'un vacarme absolu pour empêcher la religion de l'autre, parce que ça circule aussi à travers les livres. Avec l'arrivée du numérique, tout d'un coup, on se retrouve dans un âge de sectarisme et de violence.
Pour vous, Agnès Grossman, qu'est-ce qu'on fait de nouveau depuis le début des années 2000 Les salopes, par exemple, puisqu'on va en parler, hein, les salopes dans l'histoire.
Je pense qu'il y a une revendication des femmes de leur sexualité. Il y a des icônes sexuelles maintenant, des chanteuses, je pense à Rihanna, je pense à Beyoncé, même des femmes qui sont que belles, Kim Kardashian, enfin, qui est surtout célèbre pour avoir un popotin extraordinaire. Je pense qu'il y a une revendication d'être une salope, un petit peu la bitch attitude qui a été prônée d'abord par Madonna. Ça, je pense que c'est nouveau avec les années 2000. Le fait de revendiquer sa sexualité et de la revendiquer même un peu salement parfois, en tout cas de façon provocante.
On en parle tout à l'heure quand on parlera des salopes de l'histoire de Messaline Amatahari.
Europe 1 Social Club, 20h, 22h, Frédéric Taddeï.
Éric-Emmanuel Schmitt, le titre de votre nouveau roman, c'est « L'homme qui voyait à travers les visages ». C'est paru chez Albin Michel après la nuit de feu où vous racontiez votre révélation dans le désert du Sahara. Vous continuez votre enquête sur Dieu, si j'ai bien compris. Vous publiez cette fois un roman.
Oui, sur les mauvaises fréquentations de Dieu.
Voilà, c'est un roman plutôt humoristique. Moi, je l'ai lu comme tel. C'est bien comme ça qu'il faut le lire.
J'espère.
Oui. Ça commence par un attentat islamiste. Avec une ceinture d'explosifs en Belgique, à Charleroi. Au moment de la messe, le narrateur qui a 25 ans a tout vu. Il possède le don de voir à travers les visages, c'est-à-dire de voir ce qui motive les gens. Et qu'est-ce qu'il voit exactement ?
Il voit au-dessus du jeune homme qui va faire exploser sa ceinture, il voit un petit personnage qui l'accompagne et qui lui crie des choses à l'oreille et qui le remotive et qui l'oblige à retourner sur le lieu et à finalement se faire exploser. Et en fait, effectivement, mon héros, Augustin, a un don qui l'isole de la société. Déjà qu'il est assez marginal parce que c'est un orphelin, il vit dans un squat. Mais il a un don qui l'isole totalement. Il voit effectivement, quand il regarde les gens, les morts qui accompagnent les gens. C'est-à-dire, au fond, ce qui occupe l'esprit des gens. Et effectivement, il y a différents statuts de morts autour des gens. Il y a des gens qui ont des morts, mais qui ne s'en rendent pas compte. Et donc, ils sont sous influence de leur mort. C'est-à-dire, ceux-là, ils ne sont pas libres. Ils sont totalement déterminés par le passé. Et puis, il y a des êtres qui discutent avec leur mort. Alors, ceux-là, ils sont dans une tentative d'essayer de se libérer des emprises. Et puis il y a des êtres qui sont débarrassés de leur mort. Alors ceux-là, on peut dire qu'ils sont libres. Et Augustin voit tout ça. Mais évidemment, il ne peut pas en parler parce qu'il passerait pour un fou. Moi, j'en parle, mais j'ai plus rien à perdre.
Mais vous dites les morts, leur mort. Mais au fond, dans votre roman, chacun n'a qu'un mort. Hein. On a toujours un mort.
S'il y a
seulement
un personnage, celui qui s'appelle Schmitt, qui a plusieurs morts.
Oui, c'est vrai. Alors le personnage qui s'appelle Schmitt, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, bon, tout le monde n'a pas de mort. En tout cas, lui ne les voit pas tous. Ce serait épuisant. Hein. Il fait le calcul. On est 8 milliards sur la Terre. Si en plus, il voyait les morts de tout le monde, ce serait épuisant pour lui. Et puis pour vous, en tant que romancier, il faudrait décrire en permanence.
Surtout, il ne reste que les morts que les vivants portent avec eux. C'est-à-dire que la présence du mort demande dépend de la vacuité du vivant ou de la demande du vivant lui-même.
Alors lui, il voit énormément de choses. Ceux qui ne voient pas grand-chose, ce sont les médias, les journalistes. Vous écrivez qu'ils ne racontent pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'ils le reconstruisent, la plupart du temps de façon paranoïaque. Surtout les chaînes d'infos continuent. Hein. Vous dites que les journalistes travestissent la réalité. En fait, pour vous, les journalistes font œuvre d'imagination.
Oui, mais ils s'en rendent pas compte. C'est ça qui est grave.
Non, et puis ils vont le prendre mal en vous entendant.
Mais ils racontent le réel à travers le peu d'éléments qu'on leur donne en nourriture au moment où les événements se passent. Et puis ils essayent de tisser un récit avec ça. Et ce récit, à force d'être répété, véhiculé, passe pour la réalité. Mais par exemple, oui, quand mon héros voit comment les journalistes présentent Charleroi, il présente un Charleroi dramatisé, théâtralisé, pour correspondre à un Charleroi ou qui serait un recueil de banditisme et du djihadisme. Donc il n'y a plus évidemment d'images d'enfants sortant de l'école tranquillement attendus par leurs parents, de maisons proprettes. On nous montre évidemment que les squats, les quartiers terribles, etc.
La question qui hante les journalistes en plus de votre roman, c'est évidemment pourquoi. C'est toujours la question qu'on se pose après un attentat. Et vous écrivez, là, vous montrez que le terroriste devient une marionnette entre les mains des ventriloques. On lui invente des buts de guerre, c'est Charleroi qui est visé. Non, c'est la Belgique. Non, ce sont les institutions européennes. Non, c'est la chrétienté. Chacun fait parler son terrorisme.
Ils font de la fiction. Ils font ce que nous faisons tous, tout le temps. Mais nous, on sait qu'on le fait, puisqu'on est romancier ou qu'on est dramaturge. Mais les journalistes le font. Ils racontent le roman du réel. Et puis le roman de l'avenir, par exemple. En ce moment, ça fait déjà 5 ans qu'on nous raconte la prochaine élection présidentielle. Je veux dire, qu'on nous parle du réel, mais qu'on nous parle pas de l'irréel et du virtuel.
Alors, il y a un personnage de juge d'instruction, une femme très intéressante. Elle pense que c'est Dieu le responsable et qu'en criant à Allahu Akbar, les terroristes dénoncent le coupable, c'est-à-dire Dieu. Et c'est comme ça depuis des siècles, dit-elle. Les colons américains exterminaient les Indiens en citant le livre de Josué. Les Hollandais alléguaient le Deutéronome pour justifier l'apartheid en Afrique du Sud. Les Japonais envahissaient la Chine au nom du Shinto. Dieu existe et pousse les hommes à la guerre. C'est la théorie de cette femme. Et c'est un raisonnement que vous alimentez, vous le détaillez.
Oui, elle fait une instruction.
Pour vous, Dieu est le plus grand, enfin pour vous, pour
pour
elle,
le personnage.
Dieu est le plus grand meurtrier de l'histoire. Heureusement que c'est un roman humoristique.
Oui, mais elle fait une instruction à charge et elle dit, mais attendez, on nous dit la vérité depuis toujours. Ils nous le disent, c'est Dieu. C'est Dieu qui les a inspirés à travers les textes sacrés, c'est Dieu qui leur a commandé de faire ceci et cela. Elle dit, et on est tous sourds à ça.
Donc, Dieu voudrait qu'on tue.
Elle, c'est sa théorie. Dieu voudrait qu'on tue. Alors, bien évidemment, je vais mener l'enquête pour savoir si Dieu est vraiment le responsable du mal. Et c'est vrai que tout d'un coup, on ouvre les grands livres religieux et on voit des appels à la violence.
Et chez tous, même les bouddhistes.
Chez tous.
Même les bouddhistes, que ce soit en Birmanie ou au Sri Lanka, ont assassiné au nom de leurs croyances.
Alors, on assassine aussi au nom d'autre chose que des croyances religieuses. Il ne faut pas non plus.
Oui, il n'y a pas le monopole.
Il n'y a pas de monopole. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, les hommes se justifie toujours d'assassiner. Alors donc, moi, mon livre, sous le mode humoristique, est malgré tout une enquête sur la violence. Donc il y a cette enquête à charge qui va conduire mon héros Augustin à essayer de voir si vraiment, est-ce que c'est Dieu le coupable.
Et alors là, il va vous interviewer.
Oui,
ça, c'est très très drôle. Il demande à interviewer Éric-Emmanuel Schmitt, qui effectivement fait partie des Belges célèbres, qui ont un retentissement bien au-delà de leurs frontières, ce que lui a demandé son rédacteur en chef, puisqu'il est stagiaire sans être payé dans un journal. Et il va venir recueillir votre réaction. Alors, il vous décrit de la façon suivante. Un écrivain féru de métaphysique et de religion. Il a la passion de comprendre les êtres, y compris ceux qu'il exècre ou qu'il n'approuve pas. C'est possible, ça? On a un Premier ministre qui a dit, expliquer, c'est pardonner. Il pourrait dire, j'imagine, comprendre, c'est approuver.
Non, comprendre, c'est ni justifier ni absoudre. Comprendre, c'est essayer de voir comment l'esprit fonctionne quand il produit une aberration. Donc c'est très important de le faire. Moi, j'avais écrit en 2001, et maintenant c'est un de mes livres les plus lus, un roman sur Hitler qui s'appelait La part de l'autre, où j'examinais la vie du vrai Hitler et la vie de l'autre qu'il aurait pu devenir s'il était devenu peintre. Et c'était très important pour moi de faire le portrait du monstre de l'intérieur, mais avec une véritable empathie, histoire de montrer qu'en fait, nous portons tous des monstres à l'intérieur de nous, et qu'il faut, c'est en le sachant qu'on peut éventuellement lutter contre eux et les tenir en cage, les monstres. Mais le monstre, c'est pas l'autre. Ce que je ne supporte pas dans les gens qui refusent d'approcher le sujet, et Claude Lanzmann d'ailleurs à l'époque me l'avait reproché, il m'a dit vous essayez de comprendre ce qui est incompréhensible et injustifiable. Je dis c'est injustifiable, on est totalement d'accord, mais ce n'est pas du tout incompréhensible. Au contraire, c'est très facile de voir, de même qu'on peut comprendre un processus de radicalisation chez un jeune garçon, de même on peut comprendre un processus de nazification.
On peut comprendre Hitler, on peut comprendre Staline,
c'est pas approuvé.
On peut comprendre tout le monde.
Comprendre n'est ni approuvé ni absoudre. Comprendre, c'est s'approcher du sujet pour essayer de le saisir de l'intérieur. Plus on s'éloigne des sujets et on refuse de s'en approcher, plus on les met sur un piédestal et plus on se rend victime de leur éventuelle renaissance. Donc alors, ça me paraît très important de comprendre. Oui.
Éric Emmanuel Schmitt, vous voilà donc un des personnages de ce roman, hein, l'homme qui voyait à travers les visages. C'est l'occasion pour vous d'expliquer votre point de vue sur Dieu, la religion et la violence, car d'après vous, les hommes ont assassiné effectivement au nom de toutes les religions, même au nom du bouddhisme, c'est vous qui le dites. Mais pourquoi? Pourquoi d'après vous alors?
Alors moi ma thèse c'est pas du tout la thèse de la juge Poitrineau qui accuse Dieu, moi j'accuse les hommes. C'est-à-dire que je vois des hommes qui ont besoin de justifier leur comportement en l'anoblissant. C'est-à-dire qu'en fait le problème c'est que la plupart des gens en fait qui commettent des actes assassins ou terroristes sont des gens qui de toute façon ont un problème avec la loi. C'est-à-dire on les voit aujourd'hui par exemple chez les nouvelles recrues des fanatiques, ils sont souvent des délinquants donc en dessous de la loi et tout d'un coup on leur propose magiquement de passer au-dessus de la loi, puisque tout d'un coup, eux, ils obéissent à Dieu. Et donc, la rédemption, en passant, c'est un problème de la norme, c'est un problème par rapport à la loi. Donc, moi, j'en reste à une lecture qui est respectueuse des religions, en disant que je ne fais pas du tout un support de violence, d'appel à la violence. Mais en même temps, je suis obligé de constater, c'est pour ça que mon intervention dans le livre ne suffit pas, parce que le Schmitt, il ne sait pas grand-chose. Il faut que mon Augustin continue l'enquête, puisque il ne comprend pas justement pourquoi dans les grands textes sacrés, il y a toujours des passages violents, que ça soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, alors pas les évangiles, mais l'Apocalypse qui termine le corps du Nouveau Testament ou et bien évidemment aussi dans le Coran. Pourquoi Dieu, s'il est l'auteur, demande-t-il à ses nègres, les prophètes, d'écrire des textes pareils? Et donc là, Augustin va carrément mener l'enquête plus loin puisqu'il va essayer de rencontrer Dieu.
On ne racontera pas les rebondissements, Éric Emmanuel Schmitt. Néanmoins, vous posez une question plus métaphysique, puisque comme l'a dit Augustin, votre personnage, vous êtes un écrivain féru de métaphysique et de religion. C'est-à-dire, qui parlons-nous quand nous parlons? Sommes-nous le produit de notre famille, de notre milieu, de notre époque, de nos croyances? Parce que ce serait ça, les petits homoncules qu'on aurait sur l'épaule et qui nous parleraient à l'oreille. Alors, votre réponse, vous, où en êtes-vous de ce côté-là?
Moi, je crois qu'on peut se libérer, mais on n'est jamais certain d'être libre.
On est tous aliénés par notre milieu, notre époque,
on est tous déterminés.
Nos croyances.
Après, le passé, il a le poids qu'on lui donne. Donc, on peut essayer de se libérer et de se mettre à distance de ce qui nous conditionne. C'est d'ailleurs, c'est l'acte philosophique par excellence, ou c'est l'acte de connaissance de soi. C'est aussi ce que nous permet la lecture et l'écriture.
Le passé, oui, mais il y a le présent aussi qui nous influence. Et après tout, on est peut-être tout simplement la marionnette de notre milieu, de notre
façon,
époque,
cette question
de notre famille.
Oui, cette question qui est vraiment la question philosophique par excellence, est-ce que nous sommes libres ou est-ce que nous sommes déterminés? Moi, je pense que je n'aurai jamais la réponse. Parce que je connais aussi bien les arguments en faveur du déterminisme que les arguments en faveur de la liberté. C'est Spinoza contre Descartes, si vous voulez. Mais rien ne me c'est pas que rien ne me convainc. Finalement, entre les deux, je choisis pour des raisons extra-rationnelles. C'est-à-dire que je choisis la thèse de la liberté parce que j'ai besoin de penser que je suis libre pour au moins être considéré comme responsable de mes actes. Coupable, éventuellement même de mes actes. Donc je postule la liberté, mais je n'en sais rien.
L'homme qui voyait à travers les visages, c'est le titre du nouveau roman d'Éric Emmanuel Schmitt qui vient de paraître chez Albin Michel. Et puis j'annonce que Les Petits Crimes Conjugaux, votre pièce avec Fanny Cottençon et Sam Carman, se jouera au Théâtre Rive Gauche à partir du 29 septembre. Et Le Chien, à partir de 19h, toujours le 29 septembre. C'est d'après une de vos nouvelles qui a été montée à Avignon et qui a eu beaucoup de succès, je crois.
Oui, j'ai découvert ça au Festival d'Avignon cet été. J'étais totalement surpris parce que c'est une nouvelle. Bon, bah, c'est sur un thème important puisque c'est... on remonte à l'époque de la Shoah et de l'Holocauste. Je suis parti d'un petit texte de Lévinas qui, lorsqu'il était emprisonné, pas lui du tout dans un camp d'extermination, mais un camp de travail. Il était prisonnier. Lévinas raconte que un jour, il s'est approché des grilles qui limitaient le camp. Il y avait deux capots qui jouaient avec un chien, puis les capots ont été rappelés. Et le chien, lui, à ce moment-là, fait signe à Lévinas qui voulait continuer à jouer avec lui. Et tout d'un coup, il nous dit... Il dit que son humanité lui a été rendue par un chien. Il n'était plus un homme pour personne, mais le regard d'un chien la lui a rendue. Et il a été bouleversé par ça, et il a commencé à se reconstruire. Donc je suis parti de cette chose incroyable que nous raconte Lévinas pour écrire cette nouvelle qui s'appelle Le Chien.
Europe 1 Social Club revient dans un instant. Europe 1 Social Club, 20h-22h, Frédéric Taddeï.
Christophe Donner, L'innocence, c'est le titre de votre nouveau livre qui vient de paraître chez Grasset. Il est intitulé, enfin il est sous-titré roman, je ne sais pas si c'est véritablement un roman, puisque L'innocence est vous, hein, à la fin des années 60, alors que vous aviez entre 9 et 15 ans. Et dans ce récit de vos aventures, vous passez constamment du « je » au « il » pour parler de vous. Pour quelle raison ?
Parce que en regardant le garçon que j'étais à 13 ans, je ne me reconnais pas vraiment. Donc c'est ce sentiment d'étrangeté de parler de quelqu'un d'autre finalement.
C'était une vraie starlette aux yeux bleus, cheveux bouclés, un objet de désir qui hésitait encore entre la vie et le cinéma, entre les hommes et les femmes, entre ses parents divorcés, un père communiste un peu showbiz et une mère tentée, une mère psy tentée par le terrorisme.
Petit terrorisme, mais quand même des bombinettes.
Voilà, c'est ça. C'est une époque. Quoi.
Toute une époque, celle de l'après mai 68. Oui. Et donc voilà, c'est voulu rendre compte de... Donc c'est composé comme un film, comme ça, un scénario avec des descriptions très descriptives, plates. Et puis un commentaire qui est plutôt ma voix d'aujourd'hui pour essayer d'analyser ou de commenter ces faits dont je me souviens, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a ce...
Vous étiez incroyablement mûr pour votre âge. Vous ne trichez pas, c'est pas le Christophe Donner aujourd'hui qui vieillit. Ce qu'il était à l'époque.
Peut-être, ça, on se fait. Je me suis toujours fait une idée de moi-même assez haute. Mais là, non, il y a des dates, il y a des faits. C'est comme ça. C'est vrai que j'ai toujours été assez précoce. Et puis, ça ne m'a pas aidé, d'ailleurs.
Vous croyez ? C'est pas un
avantage ?
Je sais pas.
Socialement, oui, c'est toujours difficile d'être décalé comme ça, je pense. Donc. Socialement, ça ne m'a pas aidé, mais bon, c'est comme ça.
Alors, vous avez été traversé par toutes les tendances de l'époque, hein, la destruction des valeurs bourgeoises, de la famille en particulier, l'art, le sexe, la psychanalyse, la politique, la guerre civile, Saint-Tropez, la révolution, vous avez droit à tout.
Non, c'est vrai, c'est grave quand même, tous
ces
clichés.
Vous avez été bombardé de...
Non, oui, quand on vit à Paris, au quartier latin, etc., on est un peu... C'est géographique, peut-être.
Non, pas seulement, non, vous plaisantez. La plupart des enfants de entre 9 et 15 ans n'ont pas été bombardés à ce point.
Ces deux courants, mon père, ma mère, voilà, la psychanalyste et le stalinien, ça fait des mélanges un peu osés. Puis c'est leur façon de m'éduquer, c'était qu'il fallait que je sois à la fois génial et précoce. Et j'ai eu beau faire, j'ai respecté leur désir.
En vous lisant, je me suis dit, au fond, il a grandi dans une BD de Bretéché, Les Frustrés, vous voyez?
Ou alors
dans une BD de Lozier, d'ailleurs,
oui,
parce que Lozier était plus cruel.
Dans Harakiri, et puis aussi un peu dans Lonslone, quoi.
Lonslone, la bande dessinée de Philippe Druyer, qui était venu dans cette émission, d'ailleurs.
Voilà, et donc, ça fait des... Avec le temps, c'est étrange.
On a l'impression qu'à cette époque, il n'était pas possible, en tout cas dans le milieu que vous fréquentez, d'ouvrir la bouche sans parler de mai 68.
Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Je me souviens de ma mère après, donc en juin 68, elle avait qu'une obsession, c'est que ça. Elle disait, est-ce que ça va reprendre ? Est-ce que ça va recommencer ? Et ça a duré jusque assez tard quand même. C'était le grand fantasme, le grand désir, le grand malheur de tous ces gens, c'est que ça continue pas, que ça. Mais c'est pas beaucoup de gens en fait. Hein. C'est même les barricades, tout ça, c'est quelques milliers de personnes qui ont fait ça et qui ont. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris le pouvoir, ces gens-là, dans la presse, dans les arts, dans la politique, et qu'ils ont imposé
Tout le monde l'a fait.
Et tout le monde l'a fait. Ils ont imposé leur souvenir à tout le monde finalement, alors que il y avait 50 millions de personnes qui n'étaient pas au quartier latin à ce moment-là.
Mai vous-même, vous y étiez, puisque quand on vous parle de mai 68, j'y étais.
Oui, mais j'avais 11 ans, quoi. Donc c'était marrant parce que c'est un souvenir que je raconte toujours. C'était rue Gay-Lussac, donc il venait de défoncer la rue. C'était au matin, vers 11h, donc, et les ouvriers ramassaient, reconstituaient le pavage de la rue. Et pendant ce temps-là, il y avait des groupes d'intello, de profs, etc., qui discutaient. Et derrière, il y avait des Arabes qui remettaient les pavés.
Et vous étiez...
Et moi, ça m'a marqué. Ma mère m'a fait remarquer ça. Donc il y avait un côté quand même, elle était dans le coup, mais elle avait aussi l'intelligence de voir de ce décalage, de voir ce qui se passait aussi en même temps. Quoi.
Alors vous disiez tout à l'heure, les adolescents ont le pouvoir. C'était déjà le cas à l'époque, vous petit, non. jeune, adolescent, pré-adolescent, vous aviez le pouvoir. Non. Vous avez l'air d'aspirer une espèce de fascination à tous ceux qui vous croisent, notamment les jeunes filles un peu plus âgées que vous.
J'avais pas le pouvoir, mais j'étais libre. Et une liberté voulue par les parents, autorisée, poussée par les parents, très angoissante finalement, parce que obligée de faire des choses comme les grands, de faire de reprendre le discours des grands, de l'activité des grands, etc. Et donc c'était oui, d'une certaine manière angoissant, mais bon, ça a été ma vie, quoi.
Dites qu'on vous avait préparé à la lutte des classes, mais pas à la sexualité. C'est un livre, oui, d'ailleurs, sur l'ignorance sexuelle et sur la masturbation. Vous masturbez sans arrêt.
Oui, mais comme tous les adolescents, je crois que c'est quand même.
Je sais pas si
c'est quand même. Je crois que c'est quand même une obsession qui est pas traitée du tout, ni dans les livres pour enfants, ni dans les livres pour adultes, mais quand même les en tous les cas les jeunes garçons, c'est ce qui est mon cas à l'époque, c'est la chose essentielle. On va au lycée, où est-ce qu'on peut aller se branler au lycée, on va chez les copains, à quel endroit on va pouvoir se branler, tout, c'est une obsession. Alors après on l'oublie, mais
vous pensez, parce que moi j'ai complètement oublié, je me souviens pas
avez,
du tout,
vous avez
ni
raison,
d'avoir été moi-même traversé, ni même d'avoir rencontré qui que ce soit dans le lycée en train de se...
tous les ados que je rencontre, à qui je fais lire ce bouquin pour savoir justement, ils sont émerveillés parce qu'ils disent, ouais, c'est ça.
Enfin,
c'est vraiment ça.
Enfin, on en
c'est
parle.
Dans la classe, au fond de la classe. Alors, peut-être ils sont pas tous comme ça, mais enfin, ceux qui sont éveillés, ils le font. Et c'est pas forcément un plaisir, c'est une angoisse parce que on sait
oui,
pas de quoi c'est fait.
C'est douloureux pour
et,
vous.
Et à l'époque, la différence, on parlait de ça tout à l'heure, la différence avec aujourd'hui, on a passé l'an 2000, c'est justement que je pense qu'à, l'époque, il n'y avait pas donc ces films porno, cet accès comme ça direct à la pornographie, à l'érotisme.
En tout cas, pas chez les jeunes.
Pas chez les jeunes. Et donc, c'était plus douloureux, mais en même temps, ça l'est toujours. C'est toujours très difficile de rencontrer une fille ou de rencontrer un garçon et d'être bien avec. C'est toujours, je crois, la même difficulté quand même. Peut-être même différente, mais peut-être même décuplée. Enfin, bon, je sais pas.
Le communisme, ça rapportait bien à l'époque. Hein. Votre père était journaliste dans la presse.
Il n'était pas journaliste, il était ingénieur informaticien et il s'occupait de gérer l'économie et la distribution de l'humanité du journal.
Ah, c'est peut-être pour ça, parce que non seulement c'était valorisant, il fréquente des tas de gens célèbres, etc. Mais en plus, on a l'impression que c'était valorisant socialement, mais même ça rapportait. Vous viviez très bien.
Oui. Oui, bah comme un cadre technicien. Enfin, je sais pas. On avait l'impression de, c'était pas un problème l'argent. Quoi.
La révolution était partout, sur les murs, dans les discours, dans les livres, dans les journaux, dans Harakiri, dans Pilote, dans L'Enragé, dans Actuel, dans Mad. Je cite seulement ceux que vous lisez à l'époque, mais vraiment, on a l'impression que voilà, c'était partout. Quoi. Tout le monde est obsédé par la révolution.
Peut-être c'est moi qui transforme les choses aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était le grand truc, quoi. Comme aujourd'hui le terrorisme, peut-être, je sais pas.
Aujourd'hui, votre livre, vous l'intitulez L'innocence. C'est comme ça que vous pensiez à l'époque ?
Non, c'est comme ça que je vois maintenant. Non, j'étais pas du tout innocent. Je voulais faire la révolution, je voulais tuer tout le monde. Coucher avec tout le monde. Et j'avais pas du tout le sentiment d'être innocent. Je voulais être coupable de quelque chose. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est que j'ai été un peu manipulé, quoi. Donc c'est une forme d'innocence.
Oui, je peux vous poser la même question qu'à Éric Emmanuel Schmitt, du moins celle qu'il se pose à travers son dernier livre. Qui parlait en vous ? Est-ce que c'était vos parents ? Est-ce que c'était l'époque ? Est-ce que c'était le milieu ? Est-ce que c'était les films, les livres, les journaux que vous...
Oui, et d'ailleurs, tous ces jeunes gens qui se font sauter, etc., on parle jamais, là non plus, on ne parle pas de sexualité. Quelle sexualité ils ont ? Est-ce que c'est pas ça aussi, un peu quand même, leur malheur ?
Comment ça se termine l'innocence, en tout cas la vôtre, ça s'est terminé comment ?
Le livre se termine par la découverte de l'amour.
Vous pensez que c'est là ?
Oui, c'est là où je le situe, parce que c'est là où j'ai vraiment rompu avec ma famille, que je suis parti avec mon cinéaste découvreur, mon Pygmalion, etc. Et donc c'était débarrasser de l'enfance. J'étais devenu une vedette de cinéma, le monde m'appartenait, j'allais aller à Hollywood, j'allais être reconnu comme le mec le plus beau de la Terre. Donc voilà, c'était gagné, quoi.
L'innocence, c'est le titre du nouveau livre de Christophe Donner qui vient de paraître chez Grasset.
Une vague se forme dans la mer du Nord, à chaque larme que le vent ignore, pour un sourire sans raison, un nouveau jour se lève à l'horizon. Dans le désert de tes habitudes, se cache encore un grain de solitude. À chaque dune qui se déplace, c'est une empreinte qui s'efface. En funambule, on avance, c'est fragile mais ça tient la distance. Des causes et des conséquences, des causes et des conséquences. Et sur ce fil, j'avance, je suis fragile mais je tiens la distance. Des causes et des conséquences, des causes et des conséquences. Une vague se forme dans la mer du Nord, dessine son histoire juste au bord. Comme on écrit ses mémoires, on se retire vers le brouillard. Dans l'écume de nos maladresses, se glisse encore une goutte de tendresse. Chaque erreur qui se répare est l'aube d'un nouveau départ. En funambule, on avance, c'est fragile mais ça tient la distance. Des causes et des conséquences, des causes et des conséquences. Et sur ce fil, j'avance, je suis fragile mais je tiens la distance. Des causes et des conséquences, des causes et des conséquences. Causes et des conséquences. En funambule, on avance. C'est fragile, mais ça tient la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Et sur ce fil, j'avance. Je suis fragile, mais je tiens la distance. Des causes et des conséquences. Des causes et des conséquences. Sur ce fil, j'avance. Et sur ce fil, j'avance. Et sur ce fil, j'avance. Des causes et des conséquences.
Il jongle entre mélodie pop et rythme folk révélé par The Voice sur TF1. Il guide sur Europe 1, chapeau toujours bien vissé sur la tête et avec ce petit quelque chose d'Arthur H. Son premier album baptisé Jouons vient de paraître et il guide chanter des conséquences.
Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce soir avec Christophe Donner, Éric-Emmanuel Schmitt, Vincent Badré, Beata de Robien et Agnès Grossmann. Agnès Grossmann, vous êtes journaliste et vous publiez Les Salopes de l'Histoire de Messaline Amatahari aux éditions Acropole. Alors, il y a beaucoup de livres sur ce sujet depuis que j'anime cette émission. J'en ai reçu déjà un certain nombre. À chaque fois, ce sont des portraits de femmes qui ont laissé dans l'histoire des souvenirs assez sulfureux. Est-ce qu'il s'agit d'un filon éditorial? Ça se vend bien, je crois. Est-ce que c'est ça qui donne envie, comme ça, d'aller à la pêche aux femmes qui se sont illustrées souvent par, ou d'où on se souvient souvent pour leur conduite non conventionnelle, on va dire.
Alors écoutez, il faudrait demander ça à un éditeur, peut-être pour l'éditeur.
Mais parfois c'est l'éditeur qui vient et dit...
qui l'ai proposé. Ah bon, moi au départ je voulais faire un livre sur les salopes. Alors je dis salopes, en fait c'est venu après.
C'est
parce
affectueux.
Que...
Hein,
ben, oui, c'est affectueux, c'est même un peu envieux, je dis toujours, c'est un étendard. Parce que beaucoup de femmes, je pense dans l'histoire, n'ont pas osé vivre leur sexualité par peur du qu'en dira-t-on, par peur d'être traité de salope ou de pute. Ce qui arrive quand même fréquemment, même peut-être encore aujourd'hui. Donc c'était une façon de dire, bah oui, voilà, salope. Et en fait...
Donc
moi,
c'est par goût, vous.
C'est moi, par c'est, goût. C'est par curiosité, parce que je trouve finalement qu'il n'y en a pas tant que ça. Et je voulais savoir au départ, qu'est-ce qui fait que certaines en sont et d'autres pas. Pourquoi il y a des femmes qui ont vraiment un accès facile à leur sexualité et d'autres pas? Et j'avais proposé ça à mon éditrice et ça l'a pas tellement intéressée. Et
après, vous voulez que les salopes, pas les autres.
J'ai une amie qui est férue d'histoire qui m'a dit, mais tu sais, dans l'histoire, il y a plein de grandes figures qui sont des femmes que tout le monde admire, qui sont des femmes puissantes et remarquables, qui en ont été. Et là, j'ai proposé l'union des deux et là, ça l'a intéressée. Et c'est vrai que c'est intéressant comme sujet.
Ma question, moi, c'est qui lit ces livres-là, le vôtre en particulier, qui en est friand, sont les hommes ou sont les femmes?
Écoutez, moi, je pense que c'est souvent les femmes, parce que je pense que les femmes sont curieuses de la sexualité des autres femmes.
Surtout si elles sont célèbres.
Surtout si elles sont célèbres, bien sûr, parce que je pense qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal avec leur sexualité et elles ont envie de savoir comment les autres font, comment ça se passe. Ça les fait encore rêver, je pense. Et puis, je pense aussi qu'il y a quelques hommes.
Alors justement, remettons-nous dans un contexte. C'est vrai qu'il fut un temps où les femmes convenables n'étaient pas censées aimer le sexe et donc les salopes, c'est celles qui aimaient ça quand les autres le vivaient, nous dit-on en tout cas, comme quelque chose qui leur était imposé par les hommes. Mais enfin aujourd'hui, c'est fini, hein, depuis au moins une bonne quarantaine d'années, ce qui fait quasiment deux générations, la liberté sexuelle féminine ne fait plus débat.
La liberté sexuelle féminine, enfin, on peut pas vraiment dire ça, puisqu'aujourd'hui, quand on voit le burkini, quand on voit plein de choses, il y a plein de courants qui sont rétrogrades. Il faut être prudent sur la liberté sexuelle des femmes. Elle a été conquise, mais liberté ne veut pas dire pour autant jouissance sexuelle. Je pense qu'effectivement, les femmes ont une liberté sexuelle. Est-ce que pour autant, elles le vivent bien? Est-ce qu'elles ont accès facilement à leur sexualité? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a des siècles derrière, effectivement, de femmes à qui on a imposé la sexualité, à qui on a dit « tu ne jouiras pas, car celle qui jouit, c'est la pute au bordel », et qui ont encore ça dans la tête, même si elles ont la liberté, et qui sont encore coincées, si je puis dire, dans leur corps. Bon, il y en a de plus en plus qui se libèrent.
Vous avez choisi 8 femmes célèbres, hein, Cléopâtre, ouais. Messaline, la reine Margot, Catherine de Drussy, Madame du Barry, Joséphine de Beauharnais, Madame Tallien, Mata Hari, toutes ayant la réputation d'être très libres sexuellement et d'avoir eu de multiples amants. Mais est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup de femmes qui vivaient à la même époque faisaient exactement pareil? On les voit comme des exceptions, alors qu'elles étaient juste un peu plus voyantes que les autres, tout simplement.
Alors, je ne pense pas, sincèrement. Alors, dans la Rome ancienne, peut-être, parce qu'il y avait une grande liberté sexuelle, voire une dépravation des mœurs. C'était avant le Christ, avant le catholicisme, il y avait beaucoup d'orgies, etc. Donc, c'est possible.
Enfin, c'était en même temps assez macho, hein, quand même, la Rome
antique. Oui, mais il y avait une vraie liberté sexuelle. D'ailleurs, les hommes aimaient aussi les hommes. Je veux dire, Jules César, Marc-Antoine ont eu des aventures homosexuelles. Et c'était pas la même relation du tout au sexe. Après, je ne suis pas sûre. Par exemple, je pense que la reine Margot, je pense vraiment qu'au XVIIe siècle, une femme, une petite paysanne qui aurait eu le même comportement que la reine Margot, on aurait dit que c'était une sorcière et qu'on l'aurait brûlée.
Petite paysanne, certes, mais les bataillons volants de jeunes femmes que Catherine de Médicis...
Mais elles étaient à la cour. Elles étaient à la cour. C'était une élite. C'était une élite qui était très libre.
Et le massacre de la Saint-Barthélemy, on ne cesse de nous le représenter comme une orgie gigantesque. Tout le monde baisait avec tout le monde. Le moment du mariage entre la reine Margot et Henri IV, on a l'impression que tout le monde faisait l'amour avec tout le monde.
Parce que à cette époque-là, au Louvre, tout le monde faisait l'amour avec tout le monde. Il y avait une grande liberté des mœurs. Mais c'était les riches, c'était l'élite, c'était les nobles. C'était pas vrai dans les campagnes où vous faisiez même pas le quart et vous retrouviez traité de sorcière et au bûcher.
Alors, Vincent Badré, vous vouliez dire un mot?
Oui, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Montaillou, village occitan, où en fait c'est
célèbre,
un inquisiteur qui a interrogé tous les habitants d'un village pour savoir qui était hérétique.
C'est le livre d'Emmanuel Leroy Ladurie.
Voilà, et il explique que la femme qui était le seigneur du village couchait avec le curé, et il y a tous les ragots et toutes les aventures finalement très humaines qu'on trouverait aujourd'hui dans les journaux ou dans les courriers du cœur. Donc on a des réalités aussi auxquelles on n'a pas accès.
Donc en fait, tout le monde couchait avec tout le monde dans Montaillou, village occitan.
En fait, on saura ça au paradis, parce que là, au moins, on aura des informations qui sont cachées, qui ne sont connues que de Dieu. Savoir pourquoi Philippe le Bel a rejeté sa femme pendant... Enfin, Philippe Auguste, le lendemain matin, il a dit « je ne veux plus la voir ». Et ça a été une affaire extraordinaire.
Et pourquoi, on sait ?
Eh bien, on ne sait pas.
Ah.
On n'a jamais su pourquoi il a mis tout son pays sans dessus dessous, juste parce qu'il voulait plus l'avoir.
Alors dans votre livre, Agnès Grossman, Les salopes de l'histoire, c'est pas pour les critiquer, hein, pour vous c'était des vraies femmes dont vous honorez la mémoire. Alors je me suis demandé qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces femmes, et vous n'êtes pas la seule d'ailleurs, hein, puisque je l'ai dit, il y a eu d'autres livres, pas forcément avec les mêmes femmes, mais sur le même principe. D'abord elles sont belles, hein. Première fois,
pas
elles sont toujours, belles.
Mais elles savent toujours se mettre en valeur, elles savent se parer très bien, elles savent le faire croire en tout cas.
Deuxièmement, elles couchent. Alors elles couchent pour réussir ou pour parvenir à leur fin?
Elles couchent pour toutes les raisons du monde.
Elles couchent pas forcément parce qu'elles ont envie, je veux dire.
Si, elles couchent. Elles...
Aussi,
je pense sincèrement que ce sont toutes des femmes qui sont sexuellement très agréables dans un lit avec un homme. Elles savent faire l'amour, elles aiment ça. Elles sont douées. Donc elles ont un vrai goût pour ça et ça les sert. Bien sûr, ça les sert.
Mais avoir le goût pour ça ne veut pas dire avoir le goût de celui avec qui on le fait.
Oh, moi je pense que quand on a une vraie liberté sexuelle et que quand on est dans un certain libertinage, je veux dire, le sexe s'appelle le sexe. Donc il y a une espèce de liberté, de désir ambiant qui fait qu'on peut vite avoir envie de quelqu'un, surtout s'il est riche, célèbre et puissant.
Plus on en fait, plus on a envie de le faire.
Oui, c'est vrai.
D'accord.
Et le contraire est vrai aussi d'ailleurs.
Elles ne sont pas fidèles, hein, toutes.
Non, elles ne sont pas fidèles, ça c'est sûr.
Même quand elles sont amoureuses.
Oui, elles sont dans leur désir à elles. Elles sont toujours dans leur désir à elles. Elles n'en ont rien à faire des convenances, du qu'en dira-t-on, ou voilà. Effectivement, elles sont dans leur désir et elles aiment faire l'amour. Vraiment, elles s'en servent. Enfin voilà, elles sont à la fois un petit côté professionnel et un petit côté amateur, on va dire.
Europe 1 Social Club revient dans un instant. Europe 1 Social Club, 20h, 22h, Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Agnès Grossman qui publie Les salopes de l'histoire, de Messaline à Matahari, en passant par Cléopâtre, la reine Margot, Catherine II, Madame du Barry, Joséphine de Beauharnais, Madame Tallien. Vous y croyez aux salopes de l'histoire, Éric-Emmanuel Schmitt?
Si je crois aux salopes, vous allez me demander si je crois en Dieu. C'est l'interview croyance. Non, j'aime pas le mot salope parce que justement, il charrie des siècles et des siècles de machisme.
Justement, c'est pour s'en défaire.
Parler d'une liberté, non, mais bien sûr, j'ai bien compris votre démarche. Je préférerais parler des gourmandes de l'histoire,
oui,
des ambitieuses de l'histoire.
D'ailleurs, un livre qui s'appelait Les gourmandes de l'histoire, me semble-t-il. Et vous, Christophe Donner, c'est une donnée
sur les salopes.
Ouais. Non, mais ces personnages un peu à la limite du mythique d'ailleurs, puisque est-ce qu'elle vous parle à l'imagination? Aurais-je dû vous...
À l'imagination, non, mais j'en aime beaucoup. J'ai écrit un livre un peu sur Marie-Antoinette, enfin, avec Marie-Antoinette en personnage principal. C'est une femme que j'aime beaucoup, qui a été beaucoup traitée de salope, elle aussi.
Oui, effectivement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas ce qu'elles ont tout en commun, celles que... C'est-à-dire, au fond, on raconte sur elles énormément de ragots que l'on continue de colporter de nos jours. Ce que vous racontez, par exemple, sur l'impératrice Messaline, qu'on a raconté très souvent, hein, qui défie la plus grande prostituée de Rome et qui épuise 25 amants à la suite, la prostituée seulement 24. On se dit, c'est un ragot, ça, c'est un ragot qui est du même type que ceux qui couraient sur Marie-Antoinette.
Ça me fait penser au XVIIIe siècle, quand on produisait un objet bizarre, on disait c'est un meuble à causer. Mais au fond, ces femmes dont on... Là, ce ne sont pas des femmes à baiser, c'est des femmes à causer. Parce qu'il y a beaucoup plus de rumeurs que de choses.
Ah non, moi je pense qu'elles en font beaucoup.
Ah bon?
Ouais, elles en font beaucoup.
Vous y croyez, l'histoire de Messaline?
Oui. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement sur les historiens de l'époque.
Mais il faut quand même se méfier des gens qui racontent des histoires, et en particulier pour défendre des projets politiques. Parce que les historiens romains aimaient beaucoup les histoires extrêmement salées, et en particulier les empereurs qui plaisaient pas aux historiens comme Suétone ou comme les gens d'Histoire Auguste.
On les noircissait.
Ils en rajoutaient. Alors, est-ce que c'est vrai? Ben, on n'était pas là. Hein. Donc là, on passe dans le domaine de l'imagination. Mais les sources historiques, c'est souvent à prendre avec quelques pincettes.
Béata de Robien, Catherine II de Russie.
Catherine II de Russie, je ne le mettrais peut-être pas dans les mêmes livres, parce qu'elle, c'est surtout les pouvoirs, et c'est un vrai l'homme d'État, elle.
Ça n'empêche pas,
elle s'en sert beaucoup. Oui. Mais encore les ragots, on pense qu'elle a eu des centaines et des centaines d'amants, elle en a eu 11.
Mais c'est ce que je dis dans mon livre.
Absolument.
Mais ça a été une grande amoureuse, et c'est une femme à partir du moment où elle a été où elle a perdu son pucelage, elle a eu tous les soirs un homme dans son lit. Elle avait besoin de sexe, Et ça, justement, c'est aussi ce que je voulais montrer dans mon livre. C'est que c'est des femmes qui ont un épanouissement sexuel qui les aide énormément à conquérir le pouvoir et à être fortes et à avoir une vraie puissance. Et les femmes, elles cherchent aujourd'hui la puissance dans le domaine professionnel. C'est très bien. Mais il faut aussi le chercher dans sa vie privée et dans sa sexualité.
Est-ce que vous ne pensez pas, Agnès Grossman, que finalement, on ne prête qu'aux riches? C'est-à-dire, de même, on pense que Louis XIV mangeait 40 poulets à chaque déjeuner. Vous dites, après tout, c'est le roi. Et en tant que roi, c'est un surhomme, donc il mange 40 poulets. Est-ce que là, ça n'est pas la même chose? Catherine II, c'est l'impératrice. Elle a eu 250 amants.
Elle a eu vraiment 11. Elle a commencé par Saltykov parce qu'il fallait que son mari impuissant, qu'elle a un héritier. Donc, on lui a mis les Saltykov dans son lit. Puis, Poniatowski, mais ça, c'était parce qu'il y parlait de Voltaire et elle avait quelques prétentions intellectuelles et avec juste raison, puisqu'elle était très intelligente et très forte.
On a même dit d'elle, si elle avait été un homme, on aurait dit que c'était un intellectuel.
Oui, puisqu'elle écrivait, elle s'intéressait à l'art, aux livres, à la littérature.
Autre chose en commun, c'est une question, est-ce qu'elle ne supporte pas difficilement la domination masculine? Toutes vos héroïnes.
Elle la biaise, si je puis dire. Elles s'en servent. Elles aiment les hommes. Elles aiment les hommes, toutes. Il n'y en a aucune qui n'aime pas les hommes.
Par mépris, donc.
Aiment les hommes, elles aiment faire l'amour. Elles s'en servent. Elles sont aussi à des époques où il y a beaucoup de libertinage, toutes ces femmes. Mata Hari, c'est un peu spécial parce qu'elle est à une époque où la femme n'a pas le droit de travailler. Et elle est d'un milieu quand même très bourgeois au départ. Et elle ne veut pas déchoir et quitter son milieu en devenant une petite ouvrière. Et c'est mieux admis de devenir une courtisane. Donc elle se sert des hommes.
Et une stripteaseuse. On a tendance à oublier. C'était la plus grande stripteaseuse de Paris, Mata Hari.
Absolument.
Nos arrière-grands-parents allaient l'applaudir.
Absolument, la danse des sept voiles. C'est elle qui l'a inventé, peut-être, le striptease érotique. Mais non, elles s'en servent. Elles mettent les hommes dans leur poche, comme on dit. Elles sont leurs maîtresses à tous les sens du terme. Elles sont sous domination masculine, mais elles se servent des hommes beaucoup quand même.
Alors est-ce qu'elles finissent toutes mal? Non, a priori.
Non,
on pourrait penser que ça paye pas, et en fait, si, ça paye.
Elles vivent surtout bien leur vie de femme. Hein, elles sont pas.
Oui, mais enfin, elle pourrait finir, c'est arrivé à certaines.
Regardez, mais Saline, elle finit mal.
Joséphine, elle est répudiée, elle meurt à 52 ans d'une bronchite. Bon, enfin, avant, elle a été impératrice de France, quand même, c'est pas rien.
Mais elle est répudiée parce qu'elle ne peut pas donner d'enfant à Napoléon.
Mais il l'a adorée, par ailleurs.
Il l'a adorée, oui.
Bon, Mata Hari, elle finit mal, ça, c'est
elle
sûr.
Elle finit mal,
on la colle au poteau, mais.
Elle est victime beaucoup d'elle-même et de ses racontars et de son imagination.
C'est une très mauvaise espionne, il faut dire. C'est une grande stripteaseuse, mais espionne.
Oui, c'est une très mauvaise espionne, mais. C'est une victime, enfin, elle a été maltraitée, cette pauvre femme.
Oui. Mais sinon, au fond, ça finit plutôt bien. Hein.
Oui.
La reine Margot.
Mais pourquoi voulez-vous que les femmes qui aiment l'amour,
mais
ça finisse mal?
C'est l'idée.
Vous trouvez que c'est pas moral?
Parce que c'est l'idée souvent qu'on a voulu nous transmettre.
Mais oui,
au fond, on nous dit, ben voilà, si tu choisis, en tout cas, c'est ce qu'on dit aux femmes, ça se finira mal.
Une mauvaise vie.
Voilà, ça finira mal. Et ben pas du tout. Catherine II, elle règne pendant 34 ans. La reine Margot, elle divorce.
Au contraire, ça les maintient en forme.
Elle divorce d'Henri IV, mais ça se passe très bien. Ils sont amis. Elle a une vie très agréable. Non, vraiment, même Madame Tallien, à 26 ans, Napoléon l'envoie.
Ouais.
Et ça se passe très bien. Elle aura 11 enfants, quantité de petits-enfants, et tous lui tiendront la main quand elle mourra à plus de 60 ans dans son lit.
Il faut croire que ces femmes ont vraiment du talent. Et c'est pas uniquement par les sexes. C'est ça qui est s'ajoute à leur pouvoir.
Elles ont aussi du talent dans le sexe. Ce que je voulais aussi montrer, mais je pense que c'est vrai pour les hommes aussi, je pense que c'est vrai pour les hommes de pouvoir, c'est que la libido est une source énergétique énorme, et pour les hommes et pour les femmes.
En fait, c'est un livre à la gloire de la sexualité où vous êtes venu faire de la publicité.
Non, mais je pense que les femmes doivent exprimer aussi leur sexualité, doivent bien maîtriser leur sexualité si elles veulent vraiment être bien dans leur peau et avoir toute leur puissance et tous leurs moyens à disposition.
Temps, parfois, c'est la privation de la libido qui oblige à la sublimation, donc à la création.
Regardez ce que disait Christophe Donner tout à l'heure.
Ce ne sont pas d'ailleurs des artistes,
choses
ces femmes.
Qui font rêver.
Effectivement, ce ne sont pas des artistes et ce ne sont pas non plus toujours des très bonnes mères.
C'est vrai, j'avais oublié cet aspect. Les salopes de l'histoire de Messaline Mata Hari. C'est signé Agnès Grossman, c'est paru chez Acropole. On se retrouve juste après les infos.
Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
je reçois Eric Emmanuel Schmitt pour son nouveau roman L'homme qui voyait à travers les visages, Christophe Donner qui publie L'innocent, Vincent Badré pour son enquête sur la manière dont l'histoire est enseignée aujourd'hui à l'école et au collège. Son livre s'intitule L'histoire politisée avec un point d'interrogation. Agnès Grossmann pour Les salopes de l'histoire de Mélesaline Amatahari et Beata de Robien qui publie une biographie sur la fille de Staline, La malédiction de Svetlana. Christophe Donner, qu'est-ce qu'on ne fait plus? Qu'est-ce qui a tendance à disparaître depuis le début des années 2000 pour vous?
On ne marche plus dans la rue sans être écrasé par des vélos ou sans pouvoir croiser le regard des gens parce qu'ils regardent tous leur portable. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la marche. C'est là où j'écris en marchant.
Et c'est pour ça que vous vous faites renverser par des vélos, peut-être.
Non, je me fais renverser par les vélos parce qu'ils me foncent dessus. Et voilà.
Eric Emmanuel Schmitt.
Attendre. Je trouve qu'on n'attend plus. À cause justement de l'Internet, par exemple. Avant, quand je cherchais un livre qui était introuvable, je devais passer du coup de fil, appeler des amis, chercher. Ça pouvait durer des semaines. Maintenant, sur Internet, je trouve immédiatement le livre. Je me le commande. C'est peut-être la même chose d'ailleurs pour le sexe.
Oui, ça peut.
Exactement. Hein. Voilà. Et donc voilà, c'est délicieux l'attente. C'est crucifiant, mais c'est un tourment voluptueux et ça rend l'objet qu'on attend encore plus précieux parce qu'il est chargé de tout le désir du moment où on a langui pour que l'objet arrive. Et donc voilà, moi je trouve que c'est dommage de plus attendre.
Agnès Grossmann, alors qu'est-ce qui disparaît?
Alors ce qui disparaît dans mon domaine, je pense qu'on met plus en doute les capacités des femmes à prendre le pouvoir ou à régner ou à donner le meilleur d'elles-mêmes ou à prendre
sexuellement
je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qu'on ne fait plus? Oui, je pense qu'on lit de moins en moins sur papier, voilà, de moins en moins, et on va de plus en plus sur tablette et sur Internet.
Beata de Robien.
Je pense que vous, le français, vous êtes formidable parce que vous lisez encore, ce n'est pas le cas de d'autres pays. En Pologne, on ne lit plus, on s'occupe d'autres choses. Aux États-Unis, c'est quelques-uns seulement, c'est une élite qui lit encore. Et que, en France, je pense que c'est la seule nation qui possède ça, c'est que vous vous intéressez aux autres cultures et que je n'ai pas vu dans d'autres pays. Et sinon, je suis assez d'accord avec vous. Ce qui a disparu, c'est la frustration et surtout chez les enfants. Ils ont tout de suite, immédiatement. Ils peuvent pas attendre. On attendait Noël, on attendait l'anniversaire pour avoir quelque chose. Ben non, c'est fini. Parce qu'on culpabilise, il faut les redonner tout de suite, immédiatement.
Très souvent d'ailleurs chez les enfants, autrefois on allait à l'anniversaire d'un camarade, on lui apportait un cadeau. Maintenant il faut aussi qu'on donne des cadeaux à ceux qui viennent à l'anniversaire parce qu'ils ne supportent plus.
Oui, ils partent avec les cadeaux. Ça.
Il faut que tout le monde ait un cadeau, sinon il faudra attendre trop longtemps. Vincent Badré, qu'est-ce qui a tendance à disparaître pour vous?
Alors les historiens, ils vivent dans un temps très très long. Et si on regarde l'enseignement de l'histoire, en réfléchissant, en entendant tout ce qu'on a pu dire depuis le début de l'émission, eh bien ce qu'on ne fait plus, c'est justement tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire la violence, le sexe. Et ça, c'était dans l'enseignement, mais au 19e siècle ou même au 18e siècle, où là, on racontait, par exemple, la guerre des deux maris de Jacqueline de Hainaut, qui était une princesse bourguignonne, enfin de la Belgique actuelle, au 15e siècle. Et donc, il y avait un premier mari qui était un cousin du duc de Bourgogne. Elle se fâche avec lui. Elle se remarie avec un duc anglais. Et les deux se font la guerre. Et ça fâche les Bourguignons, qui étaient alliés avec les Anglais avant l'arrivée de Jeanne d'Arc. Donc ils sont fâchés. Ça participe à la rupture, à la victoire de Jeanne d'Arc, en fait. Une histoire de couple qui s'entend pas et qui se dispute. Et finalement, aujourd'hui, on a un enseignement qui est très désincarné, où on parle de moins en moins, justement, de ces réalités concrètes que sont la violence, la mort, et certainement pas le sexe. Bon, avant, on reprochait à Louis XV d'avoir des maîtresses. Maintenant, c'est très très difficile de trouver une allusion à un personnage cité dans un manuel d'histoire, dans un cours, j'en sais rien, mais dans un manuel, qui a eu ne serait-ce qu'un conjoint, quel qu'il soit. Bon, donc voilà. On est dans quelque chose de tout à fait un petit peu hors sol, un petit peu séparé de, un petit peu théorique, très. Donc c'est, ça fait partie des aventures un petit peu paradoxales de notre enseignement que finalement il a perdu ça, mais depuis assez longtemps, hein, même déjà depuis les années 60.
Bon, on va en parler. Voilà. On va en parler dans un instant, Vincent Badret.
Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï.
Vincent Badret, vous êtes donc professeur d'histoire de géographie, vous êtes l'auteur de L'histoire fabriquée, ce qu'on ne nous a pas dit à l'école, c'était paru en 2012. Aujourd'hui, le titre de votre nouveau livre, c'est L'histoire politisée, avec un point d'interrogation cette fois, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Il s'agit d'une enquête sur la manière dont l'histoire est enseignée dans le primaire et au collège. Alors l'histoire politisée avec un point d'interrogation, ça me fait un peu rire, est-ce qu'elle n'est pas forcément politique, l'histoire? C'est un discours sur le passé. Un discours, c'est forcément une interprétation, c'est forcément orienté politiquement, et c'est même la fonction de l'histoire depuis le 19e siècle, c'est construire une identité nationale.
Alors justement, depuis peut-être depuis Mitterrand, depuis les programmes patronnés par Chevènement en 1985, on essaye de faire une histoire qui soit le moins politisée possible, qui soit un petit peu un point d'équilibre, un peu neutre, entre des vestiges du récit national ou du roman national de la Troisième République à la gloire de la nation. Et puis, ce qu'on a essayé de faire, au contraire, dans les années 60-70, où on a parlé des civilisations étrangères, on a commencé à parler de la Chine à cette époque-là. On a commencé à parler de la société, à parler non plus des personnages. J'avais, quand j'étais petit, j'avais un manuel où il n'y avait aucun nom, aucune date, aucun personnage, que des images dans le sens inverse de la chronologie et uniquement thématique.
Donc, et c'était à quelle époque, ça?
Et ça, c'était à la fin des années 70.
Oui, parce que ceux qui ont grandi dans les années 60, nous, on avait tous les personnages.
Voilà, bah justement, Bayard, ça a changé juste après. C'était, voilà. Alors, on peut pas dire c'est mai 68, c'est un peu avant. Ça s'est transformé progressivement. Mais donc on a complètement changé de manière de faire.
Mais alors justement, vous faites allusion, vous dites la Turquie instrumentalise l'histoire en organisant un grand show à la gloire de la prise de Constantinople par les Turcs. C'était récemment, hein, je crois, c'était au mois de mai dernier, c'est arrivé.
Oui, parce que en fait, on a partout dans le monde, on a un certain nombre de pays qui, au contraire, travaillent leur identité nationale de manière politique, où on a un gouvernement qui dit voilà, eh bien notre identité, ce sera pour la Turquie la prise de Constantinople.
On fait exactement pareil, on a fait la même chose avec la Révolution, avec la Résistance ou avec la Première Guerre mondiale.
Donc, alors justement, quelle est la différence entre nous et les Turcs ? Particulier, c'est que on a essayé, pour ne plus parler de nos divisions, parce qu'elles sont quand même assez grandes, on a beaucoup tué au nom de la République, on a aussi beaucoup tué au nom de la Ligue catholique ou des protestants. Donc les Français ont connu des division extrêmement forte, et il y a des périodes de passion, et puis il y a des périodes où on essaye de calmer le jeu. Et donc Mitterrand essaye de rabouter les morceaux, de faire une sorte de compromis entre le récit, les documents, entre deux tendances, ce qu'on faisait sous la Troisième République, ce qu'on a essayé de faire dans les années 70, et on a un peu mélangé les deux en essayant d'arrondir les angles, d'atténuer, et de plus parler de toutes les questions qui fâchent. Et d'une certaine manière, on a mis le point d'interrogation, et il y a quand même quelque chose de tout à fait sincère dans le projet de l'éducation nationale, de parler à tous, et donc d'être neutre. Et en particulier, il y a une règle entre professeurs ou dans l'enseignement qui est de ne jamais donner un jugement de valeur. De ne jamais dire, voilà, je choisis de dire que, est-ce que Napoléon III est un gentil ou un méchant? C'est un élève qui m'a demandé ça une fois. Est-ce qu'il est gentil ou méchant? Eh bien, c'est la question interdite. Alors le problème, c'est que, d'une certaine manière, ça a sa grandeur, et c'est assez respecté, mais que, effectivement, comme vous le disiez très bien, on a toujours une petite préférence, on a toujours donné un peu plus de place à celui qu'on aime bien. Et donc j'ai essayé de me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour parler de ces gens si différents, des gens qui, dans certains cas, que je trouve formidables, dans d'autres cas, je les trouve gerbants, j'ai envie de vomir, et de dire, ben voilà, je vais essayer de les faire comprendre. Et ça va me faire grandir en tant qu'enseignant, en tant que professeur et en tant qu'homme, de me dire, voilà, bah, par exemple, j'ai cité dans le livre un texte d'un des fondateurs de la police politique soviétique. Donc il dit, nous sommes les êtres, en substance, nous sommes les êtres les plus moraux du monde, nous détruisons le mal à sa racine en tuant les bourgeois. Et on peut trouver ça horrible, c'est violent. Et en même temps, on peut aussi se dire, mais si je me regarde à l'intérieur, j'ai une part de moi-même qui a envie d'étrangler celui qui me déplaît. cette part de moi-même, je peux choisir de pas lui laisser trop de place, ça serait mieux. Mais j'ai besoin même, y compris pour continuer à désapprouver telle ou telle personnalité, telle ou telle partie de l'identité française, j'ai besoin de la connaître et de la comprendre.
On en revient à la même question que se posait Éric-Emmanuel Schmitt dans son roman, vous vous reconnaissez ?
Mais totalement, mais je pense qu'on ne peut pas faire de l'histoire sans aussi faire une histoire morale.
Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord
non,
avec
non,
vous,
mais
parce que
je sais.
C'est délicat. Parce qu'en fait, il faut faire de l'histoire, à mon avis, totalement amorale, et en même temps...
Mais pas exclure les problématiques morales.
Mais en même temps, on est toujours au bord de la morale, parce que ce retour vers le passé, à la limite, on s'en fout de ce qui se passait dans le... Mais ça va être de se dire... Comment je vais pouvoir réfléchir sur des actes qui vont être, que je vais considérer comme bons ou mauvais, à partir de l'histoire. Et donc, si je raconte l'histoire de Messaline, de Catherine de Russie,
mais
bon,
vous
ben.
Savez, on n'échappe pas à la morale. Même refuser la morale, c'est faire de la morale.
Ben, disons qu'il faut les distinguer dans le temps.
Oui, c'est ça.
C'est dans l'enseignement de l'histoire. C'est de les situer dans l'histoire et dans le contexte historique.
Alors
nos jugements sont différents aujourd'hui.
Il y a l'analyse et le jugement.
Votre enquête est intéressante justement parce qu'au fond, elle va contre bien des idées reçues, peut-être même des idées que vous aviez vous-même, j'imagine, Vincent Badré. C'est-à-dire qu'au fond, premièrement, vous avez véritablement ouvert les manuels, ceux dont on parle très souvent en disant « Ah bah avant, c'était pas comme ça, c'était mieux ». Vous les avez vraiment ouverts, vous les avez vraiment comparés. Vous avez essayé d'être juste, j'imagine, en les comparant et vous n'arrivez pas du tout au... Déjà, les manuels, en fait, ils changent très peu, par exemple, hein.
Voilà, oui, alors il change très lentement. Ce qui a changé plutôt, c'est la manière de dire les choses. Mais si on voit ce qu'on dit sur le Moyen-Âge, c'est extrêmement stable, même depuis 50 ans. Par contre, aujourd'hui, avant on faisait ça quand vous étiez jeune, désolé de vous le dire, mais vous aviez un texte qui racontait des événements successifs. Donc c'était chronologique et c'était un texte. Et puis à côté, il y avait des images, des petits commentaires, mais c'était... composé comme ça. Aujourd'hui, si vous regardez les manuels des enfants, il y en a des extraits sur Internet, c'est assez facile à trouver. Vous allez avoir, en fait, une image du château de Versailles, une image de Colbert, une petite chronologie trois pages avant. Et à la fin, avec tous ces éléments-là, vous pourrez faire exactement le même récit. Ou bien vous pourrez faire quelque chose de complètement thématique, mais on a quelque chose de très éclaté. Désolé, ça ressemble beaucoup à un magazine féminin. Donc on a des petits morceaux, des petits bouts de texte.
La chronologie est passée à la trappe. Hein.
Alors, si vous regardez les pages les unes après les autres, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, le professeur, en fait, il a son manuel comme si vous aviez un piano, une guitare, vous choisissez les notes, vous pouvez les mettre dans l'ordre chronologique. Et c'est assez facile à faire pour un professeur. Pour un élève, c'est plus difficile.
Oui, parce que nous, de notre temps, on passait une page, les habits changeaient, et puis l'ordre était toujours le même, la chronologie finissait par nous rentrer dans la tête, peut-être.
Alors ce qui est dommage, c'est que la chronologie en elle-même, c'est que la chronologie, elle permet de comprendre ce qui se passe avant et après. Et par exemple, l'évolution de la reine Margot, entre le moment de son mariage, qui est particulièrement dramatique, parce que c'est le moment de la Saint-Barthélemy, et puis la fin de sa vie où elle dirige un salon très intellectuel dans le Paris d'Henri IV, ou peut-être même jusqu'au début du règne de Louis XIII, si je me souviens bien. Donc on a, aujourd'hui, on dit, ben voilà, on a eu François Hollande après Sarkozy. Si on présente les présidents de la République, on dira, bon ben, on aura tendance à casser des liens entre les événements et à les rendre plus difficiles à comprendre, peut-être.
Est-ce que la chronologie est toujours ethnocentrée ?
Alors, en fait, si vous regardez certaines pages, oui, certaines pages, non. Là aussi, vous avez des gens qui vont vous dire il n'y a plus rien, tout est fini, tout est perdu. D'autres qui vont vous dire heureusement, c'est merveilleux, maintenant on est ouvert au monde. En fait, vous avez des morceaux de vrais romans nationaux purs et durs. Louis XIV est totalement identique. Et puis, vous avez des morceaux d'ouverture au monde où on va vous expliquer que la colonisation était, que la conquête coloniale était uniquement violente. Qu'il n'y a pas eu aussi des gens qui se sont dit qu'ils voulaient mieux être gouvernés par des Européens que par leurs princes ou leurs tyrans habituels. Donc, on est dans une sorte de mélange un peu moyen.
Qui décide de cela ? Est-ce que c'est le politiquement correct qui a atteint l'éducation nationale ? Et pourquoi pas de chronologie ? Qui a décidé de cela ?
En fait, c'est aussi l'état de la société. C'est-à-dire, on parle très peu de la violence pendant la guerre de 14. On ne dit pas les gens ont, pour beaucoup, choisi d'être violents parce qu'ils étaient patriotes. D'autres ont trouvé ça horrible. Mais donc il y a beaucoup l'influence sociale. Et ensuite, c'est choisi par des groupes de professeurs. Donc il ne faut pas choquer le groupe. Donc c'est très consensuel.
Europe 1 Social Club, 20h-22h,
Frédéric Taddeï.
Toujours avec Vincent Badré, l'auteur de L'histoire politisée, point d'interrogation, réformes et conséquences. Le livre vient de paraître aux éditions du Rocher. Au cours de cette enquête sur la manière dont l'histoire est enseignée dans les écoles primaires, mais aussi au collège, vous constatez que les manuels anciens étaient plus violents que ceux d'aujourd'hui. Vous commenciez à nous l'expliquer tout à l'heure. Il y avait plus de détails, on avait moins peur au fond de décrire les choses.
Oui, on avait, ben, on racontait. Et on racontait des histoires de personnes qui choisissent de servir de rentrer dans une guerre civile ou de servir l'État. Et on rentrait un petit peu dans le détail parce que finalement, on faisait un petit peu du cinémascope. Si vous voyez les images des manuels des années 60, vous avez plein de personnages, une grande reconstitution, c'est un peu du péplum. Et on n'avait pas justement totalement séparé la morale de la sociologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir une approche un peu sociologique. On dira, voilà, quelle est l'évolution de la condition féminine à la fin du XXe siècle. Mais on ne racontera pas la biographie d'un personnage. Ou bien on va parler peut-être de Clémenceau à la fin de la guerre de 14, qui encourage fermement les Français à tenir le dernier quart d'heure, mais on n'expliquera pas le début de son parcours où c'était un chieur, c'était un homme politique qui était surnommé le tombeur de ministre, qui était accusé de corruption, il y a eu un gros passage à vide au moment de l'affaire de Panama. Donc on a perdu beaucoup de pattes humaines.
Vous dites aussi qu'ils sont moins ouverts à la complexité qu'aujourd'hui, qu'au fond, ils donnaient plus de détails, tout simplement. Ils consacraient plus de pages à chaque sujet, il y avait plus d'informations. Est-ce que ça n'est pas le cas également dans les romans qu'on écrit aujourd'hui? Par rapport aux romans du 19e siècle, il y a moins de détails, il y a moins de mots, il y a moins de dialogues, il y a moins de descriptions.
Il y a plus d'images.
Dans les livres, pas dans les romans.
Dans les manuels actuels, oui, je ne peux pas vous parler des romans, mais c'est assez étonnant, oui, c'est... Alors on traduit, en fait, on traduit tous les... Oui, c'est très sec. Mais on traduit, en fait, tous les textes aussi. Les textes sont traduits pour les enfants de collège, ce qui n'est pas de vocabulaire trop compliqué. Et je vais citer quelqu'un qui est très critique par rapport au système, et qui s'appelle Brighelli, qui dit, voilà...
Jean-Claude
Brighelli. Il dit, quand j'étais enfant, adolescent, je lisais des livres, il y avait à moitié des mots que je comprenais pas. Et c'est évocateur pour moi. Et on avait aussi, il y avait des leçons de vocabulaire. Ça, c'est très mystérieux. Cette idée de dire, voilà, on va peut-être être impatient, comme vous le disiez tout à l'heure.
On va être plus simple pour être compris. C'est ça la réflexion aujourd'hui. Il vaut mieux être compris par tout le monde que n'être compris que par un petit nombre.
Oui, mais si on donne un récit, on va donner des ancrages à la mémoire. Oui. Et on a peut-être besoin de cette complexité humaine.
Et puis la simplicité. Oui, et puis la simplicité, c'est pas le simplisme. Hein. La simplicité, c'est la résolution de toutes les difficultés. Le simplisme, c'est l'ignorance des difficultés. Donc je trouve que souvent, on est en face de récits simplistes et pas de récits simples.
Béata Drobien, vous vouliez dire un mot?
Pour moi, c'est consternant parce que quand moi j'ai fait des études en Pologne, et je suis venue en France quand je préparais les troisième cycles, les doctorats, et ça ressemble complètement à la méthode marxiste d'enseigner l'histoire. L'histoire, par exemple, ce fameux diamat, le marxisme-léninisme qu'on nous enseignait, c'était pas du tout pour raconter l'histoire et les passés, mais pour justifier les présents. Et donc, est-ce que vous pensez que ces groupes dont vous parlez, est-ce que ils sont inconsciemment imprégné de cette éducation post-68 heures qui fait qu'on ne se rend pas compte comment on appauvrit les vocabulaires des enfants. Par exemple, au Canada, toutes les fables que nous connaissons, que vous voyez maintenant, elles sont dans une autre version. Il n'y a plus du tout passé simple. Tout est en présent parce que les pauvres chéris, ils ne peuvent pas retenir les mots.
Il n'y a pas spécialement un groupe.
Non. C'est vraiment, ce sont des éditeurs qui publient des manuels relativement proches parce que c'est choisi par le groupe des enseignants. Donc il y a 5 ou 6 profs d'histoire-géographie qui sont très variés en fait, mais qui doivent s'entendre sur un livre qu'ils vont partager pendant le temps où ce livre pourra être utilisé.
Et vous dites bien aussi, pour tempérer dans votre enquête, vous dites au fond les enseignants peuvent parfaitement se détacher du livre aussi. Hein. Ils n'en sont pas prisonniers. Au fond, on n'arrête pas de polémiquer sur le contenu des livres. Et c'est ce que vous faites d'une manière ou d'une autre. Mais vous rappelez constamment que tout ne se passe pas dans le livre.
Bien sûr. Alors en fait, surtout, on choisit. Et peut-être ce qui change aujourd'hui, c'est justement qu'on voit réapparaître dans certains livres, dans certains manuels, des choses beaucoup plus concrètes, l'histoire d'ouvriers qui rentrent complètement bourrés
de la fête. 30 ans après, j'ai vu ça en France.
Et ils se retrouvent. Et en fait, on se rappelle plus leur nom. Ils se rappellent plus leur nom. Et donc, on doit les rendre à leur femme. Voilà. Et alors, on met des étiquettes. Et il y en a qui mélangent les étiquettes. Donc, en fait, on a une résurgence aussi et un changement aussi devant un peu de civilisation où on voit réapparaître un désir de raconter, un désir de concret, d'une histoire qui craque sous la dent. Et donc il y a, en fait, l'enseignement de l'histoire, il n'est pas du tout séparé de l'époque dans laquelle on est. Et donc on a une époque aussi qui désire plus de politisation, plus de contraste, plus de compréhension des grandes oppositions. Qui se font jour actuellement.
Oui, parce que ça a toujours été important. Les oppositions, il y avait la version républicaine de l'histoire, il y avait la version catholique, elles s'affrontaient, il y a la droite et la gauche. Aujourd'hui, ce serait quoi le sens de la politisation s'il y en avait ?
Alors en fait, dans ce qui est la production des manuels, c'est une production très, très consensuelle. Le ministère a fait un programme d'histoire, parce qu'il faut faire un programme d'histoire qui est pas très différent, qui est un peu plus à gauche que le précédent, mais c'est pas fondamentalement différent. En éducation
oui,
civique...
Vous dites que les livres changent très peu et les programmes changent très peu depuis 45 au fond.
Ben on change des nuances, on va mettre un petit accent d'un côté, un petit accent de l'autre, puis on dira voilà, c'est formidable, regardez, on a fait plaisir à nos amis. Ce qui va changer, c'est que on va avoir en éducation civique, on va insister sur le civisme. On va dire, voilà, dans le passé, on s'est disputé, mais c'est le passé. Maintenant, c'est la Marseillaise de Yannick Noah. Les bagarres, c'est terminé. Maintenant, on va tous s'aimer. Ça va être formidable. Je me rappelle pas les paroles exactes, mais c'est cette idée-là. Donc, on fait beaucoup de civisme.
Vous dites même dans l'histoire, on insiste sur la laïcité, sur l'anticléricalisme, être ouvert au monde et sans frontières. Mais enfin, bon, voilà, il n'y a pas de quoi polémiquer, quoi.
Si, justement, ça devient des sujets un peu polémiques. C'est présent, ça existe, ça fait partie des insistances peut-être actuellement. Il y a aussi une structure qui reste la structure nationale. Vous parliez tout à l'heure d'ouverture à l'étranger. On fait de l'histoire de France, hein. La France par rapport au monde, la France et la mondialisation, mais c'est comme quand on parle des résultats sportifs, hein. Les exemples sur la guerre de 14 dans mon premier livre, c'est presque uniquement des exemples français. Le programme dit vous parler de la guerre de 14 en général, mais on n'ira pas beaucoup sur le front des Dardanelles ou en Russie. Donc,
ce que je veux dire, c'est ce que vous avez l'air de souligner dans votre enquête, c'est que c'est une politisation très relative, quoi.
Ben, en fait, on essaye d'éviter ce que les gens ont envie de retrouver, c'est du débat. Vous avez une partie de la jeunesse qui s'est passionnée pour les veilleurs en 2013, pour qui a manifesté pour avoir une famille. Vous avez ceux qui ont manifesté en 2016 pour Nuit debout. Donc des fractions tout à fait réelles et actuelles de la jeunesse qui veulent un monde plus moral, un monde plus politisé, plus écologique, plus relationnel. On a des jeunes qui veulent des réseaux sociaux, qui veulent être reliés et qui ont un peu envie de vivre l'histoire comme s'ils y étaient. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de reconstitutions. Vous avez le château de Guédelon. On va refaire un château comme si on était au Moyen-Âge.
Bon, c'est, vous voyez que les Turcs ont raison de refaire la prise de Constantinople.
Alors le problème...
Ils sont dans l'air du temps.
C'est que si on revient à... C'est pas exactement la même chose que ce que font les Turcs. Parce que les Turcs, ils disent, on choisit. Dans l'histoire, on choisit d'être du côté de ceux qui ont pris Constantinople.
Ça paraît logique. Nous, on est du côté de Napoléon à Austerlitz. Hein.
Ah bah oui, mais le problème, c'est que la Turquie a de légers problèmes identitaires parce que, justement, elle nie l'influence qu'a eue sur elle l'Empire byzantin, même indirectement, par sa musique, par plein de choses. Et que, finalement, si on dit bah, il faudrait retrouver Napoléon, par exemple, bah, vous avez... Napoléon n'est pas consensuel. Et que peut-être, si on doit chercher une solution, il faudrait arriver à se dire... Je veux avoir une identité complexe, qui soit une expérience culturelle. De dire, il y a eu en France des jansénistes qui disaient que même le rire, c'était déjà un peu suspect. Alors le sexe, je vous laisse imaginer. Et puis d'autres qui, au contraire, étaient plus gaulois. Vous avez Astérix, et puis vous avez Obélix, qui est l'anti-janséniste absolu, qui mange, qui boit, qui fait la fête.
L'idéal, ce serait de rester ouvert à toutes les interprétations. Mais est-ce que ça n'est pas un peu compliqué pour des manuels scolaires? Est-ce que l'histoire qu'on doit enseigner, c'est pas justement eu de fausses certitudes, mais des certitudes quand même? Et puis après, s'ils ont l'esprit critique, eh ben, ils iront voir au-delà.
Non, je pense qu'il faut être réaliste et montrer progressivement la complexité. Dire, voilà, bah, vous avez de jouer un peu carte sur table, d'expliquer. De dire, ben voilà, vous avez, si on parle de ce qui occupe les esprits actuellement, l'islam, ben vous avez des gens qui veulent être cohérents musulmans, qui se disent, voilà, ben, la cohérence c'est Daesh. Vous en avez d'autres qui vont dire, la cohérence de l'islam c'est tout à fait autre chose. Et c'est ce que je disais une fois à un élève, je lui ai dit, mais personne ne vous demande de croire à ce à quoi croyait Napoléon ou les Romains, mais vous aurez besoin de comprendre l'autre, la personne que vous allez rencontrer. Et je crois que la France est un pays qui est structurellement plein de bagarres, plein de divisions, en même temps qui fait beaucoup de compromis, sans beaucoup le dire, mais on fait plein de compromis, très discrets, et on a besoin de comprendre ça, surtout si on n'est pas d'origine française.
Vous êtes sur la même conclusion dans votre roman.
Oui, ce qui me fascine dans le phénomène de l'histoire, c'est qu'au fond, il y a deux histoires. Il y a l'histoire telle qu'elle est, puis l'histoire telle qu'on a besoin qu'elle soit pour pouvoir être une nation. Et j'aime beaucoup votre proposition, qui consiste à trouver au fond un identifiant qui pourrait rejoindre l'histoire telle qu'elle est et l'histoire telle qu'on a besoin de se la raconter pour construire une identité nationale. J'aime beaucoup votre proposition de dire qu'au fond, l'histoire de la France, c'est l'histoire de combat et de compromis. Parce que là, on peut trouver une ligne de force.
L'histoire politisée avec un point d'interrogation, réformes et conséquences, c'est signé Vincent Badré, c'est paru aux éditions du Rocher.
Europe 1 Social Club, 20h-22h, Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Vincent Badré, Éric-Emmanuel Schmitt, Christophe Donner, Agnès Grossman et Beata de Robien qui publie La malédiction de Svetlana aux éditions Albin Michel. Svetlana, c'est la fille de Staline. Elle est née en 1926. Elle est morte en 2011. Vous dédiez ce livre à la mémoire de votre grand-père qui a survécu, dites-vous, à 12 ans de goulag. C'était sous Staline ?
C'était sous Staline. Nous avons eu la malchance, c'est-à-dire ma famille, d'habiter le Vauf, qui était une ville...
Lvov,
qui était Lemberg, qui était...
En Pologne, donc.
En Pologne, et qui était à la frontière, pas loin, en Ukraine, aujourd'hui en Ukraine. Et mon grand-père, qui était professeur de l'université, qui était arrêté, et puis envoyé pour 12 ans de goulag. Et moi, dans le livre précédent, La fugue polonaise, je raconte son retour, parce que j'étais enfant et que je les voyais rentrer et on ne comprenait pas d'où ils venaient ni comment ça s'est passé parce qu'on nous a toujours tout caché.
Alors la biographie de Svetlana, on voit qu'elle aussi, on lui a toujours tout caché, en tout cas le plus longtemps possible. Vous êtes inspiré pour écrire ce livre de ses livres à elle. Elle en a publié puisqu'elle a fui l'URSS en 1967. Il y a aussi les témoignages, les archives, les correspondances, les archives en plus de tous les pays puisque aussi oui. Bien aux États-Unis, la CIA, le KGB, il y a tout le monde à penser, à parler et à raconter la fille de Staline. Vous imaginez les conversations, les pensées, la vie quotidienne, c'est une biographie un peu romanesque à la manière d'aujourd'hui.
Non, pas tant que ça, parce que les dialogues que je reconstitue sont d'après sa correspondance et ses lettres et ses livres. Elle a laissé ses deux premiers livres qui avaient une certaine qualité littéraire, surtout les 20 lettres pour un ami. L'autre, en une seule année, un tout petit peu moins en qualité, et puis deux autres qui sont franchement indigestes.
Alors, évidemment, on se dit forcément, Staline, c'est un des plus grands criminels de son temps. Tout le monde était censé lui obéir au doigt et à l'œil. Donc forcément, elle a dû avoir une enfance épouvantable avec un père violent, méchant. Pas du tout. Hein.
Pas du tout.
Quand elle était enfant, il était au pouvoir déjà quand elle est née. Hein. Et c'est l'amour entre eux. Elle l'appelle,
grand amour.
C'est Papotchka.
Et c'est
lui,
vraiment Papotchka.
Il signe ses lettres.
Ici, et c'est même presque attendrissant et touchant de voir Staline tout le temps de tenir sa fille dans les bras, de la protéger de brusquerie de son frère, même sa mère qui trouvait, qui était une vraie bolchevique et qui considère que il faut élever la jeunesse d'une façon communiste, donc il faut pas d'une façon assez dure. Et c'est lui qui la gâte. Mais ça, d'ailleurs, il y a un très amusant, c'est les jeux de pouvoir, les jeux où c'est elle qui est la petite patronne et lui, les grands tyrans que personne n'ose contrarier. obéit. Et il y a plein de lettres, de petites lettres que, qui s'échangent et qui s'envoient. Où elle lui demande, bah ça peut être c'est de haut de ses 5-6 ans ou 8 ans, où elle lui dit, Papouchka, tu dois mettre ton manteau de fourrure parce qu'il neige. Mais aussi, elle se mêle pratiquement de la politique et elle lui dit, je vous demande, en s'adressant à tous ses secrétaires, qui sont ses secrétaires, à tous ses acolytes, vous cessez de parler maintenant parce que nous sommes entre la famille et dans la famille.
Elle a un côté petite princesse, hein, elle a une, terrible.
Déjà, elle a une éducation d'une princesse. C'est une petite fille qui est élevée par des gouvernantes. On lui apprend l'anglais, l'allemand, les français.
Elle vit dans une datcha très
elle
luxueuse.
Elle vit dans une datcha très luxueuse. On la conduit partout. Elle vit sans argent. Donc, c'est pour ça qu'elle ne comprendra jamais les pouvoirs d'argent. Et quand elle sera milliardaire, elle gaspillera tout parce qu'un soviétique ne comprend absolument pas. Il ignore jusqu'à le rôle de la banque et un compte en banque.
Elle est la seule qui ne craint rien dans ce pays. C'est vous qui dites ça ou c'est elle à un moment?
Non, c'est moi qui l'ai dit parce que...
Le monde a la trouille.
Tout le monde a la trouille. C'est la fameuse purge. Et autour de la table, après un banquet, elle voit disparaître ses oncles, ses tantes. Tout était parfait un jour, deux jours avant. Elle ne comprend pas d'où qu'est-ce qui se passe.
Sa mère meurt quand elle a 10 ans. Elle n'apprendra que longtemps plus tard
longtemps
qu'elle s'est suicidée.
Donc elle voit déjà les premiers mensonges. Et puis là, on lui apprend qu'elle est la personne la plus importante au monde.
À l'école, il y a une de ses camarades de classe qui vient lui dire « Mon père a été arrêté pendant la nuit, dis à ton père de le libérer. »
Oui, elle s'adresse à son père et lui dit « Dis à tonton Laventi, c'est-à-dire à Beria, qu'il les libère. » Et son père lui demande d'écrire l'adresse et immédiatement, dès que sa petite fille a les dos tournés, il envoie Yezhov de s'occuper de cette famille. Et d'envoyer la petite fille
finir le travail
dans
avec
ce qu'on
enfants,
appelait oui. Dietzky Dom, c'est-à-dire un orphelinat quand on n'a pas l'idée à quoi ça ressemblait.
C'était l'Union soviétique à l'époque, effectivement. Alors on se demande comment est-ce que tout ça va virer au cauchemar, parce qu'on se dit, elle est partie quand même, elle a quitté l'URSS en 1967.
C'est un acte extraordinaire ce qu'elle a fait.
Mais on y reviendra, mais en fait, ça se passe relativement bien. À 16 ans, elle flirte avec un cinéaste, on est en 42 pendant la guerre, elle flirte avec un cinéaste Kepler.
Qui a
40 ans, qui est marié, donc immédiatement il est arrêté, déporté.
Mais oui, mais mettez-vous à la place d'un père, même s'il ne s'appelle pas Staline, une fille de 16 ans qui flirte avec un homme marié qui a 40 ans, on essaye d'arrêter ça. Sauf que
lui, évidemment,
Staline,
les moyens sont...
il a de manière musclée, mais pas tant que ça. Il était tout à fait dans son pouvoir de tuer Kepler.
Oui,
mais il avait
pas.
Très peur que dans le sang d'Alulieva, c'est quand même des gens bizarres et fous.
Alulieva,
c'est le nom de sa mère. Donc il a peur qu'elle fasse une bêtise aussi. Donc il a peur. Donc il est assez délicat, vous pouvez dire. Il envoie juste pour 10 ans, d'abord 5 ans, puis encore 5 ans. Parce que quand il revient à Moscou, donc il s'est interdit. Puisque Staline a traité le périmètre de la capitale comme une ceinture de chasteté de sa fille. Donc il les renvoie une deuxième fois pour 5 ans. Donc il fera 10 ans de goulag, plus une petite année jusqu'à la mort de Beria parce qu'il devait servir d'otage.
Europe 1 Social Club, 20h, 22h. Frédéric Taddeï.
Dans la malédiction de Svetlana, qui vient de paraître chez Albin Michel, Svetlana, c'est la fille de Staline. La malédiction, Beata Dorobien, on se dit, après tout, elle n'a pas été si maudite que ça. Elle a une vie plutôt agréable dans un pays où la vie était quand même très difficile. En 1944, Svetlana, la fille de Staline, épouse un étudiant juif, Morozov, et Staline... n'y voit rien.
Il n'accepte absolument pas.
Mais il n'accepte pas, mais il leur fait un beau cadeau, un bel appartement avec vue sur la Moscova et le Kremlin. Voilà, il ne l'a pas déporté. Hein.
Il ne l'a pas déporté.
Il ne l'a pas envoyé au Goulag comme il l'avait fait
au moment de divorce, il envoie les pères, son beau-père, au Goulag. Oui, qu'il sera libéré. Bon. Mais c'est parce que aussi Svetlana a dit, si tu, papa, si tu déportes ou tu tues, si tu déportes Grégory, je me tue. Oui, donc elle a défendu son ex-mari, bien qu'elle n'ait jamais été amoureuse de lui, et qu'elle s'était, comme tout ce qu'elle faisait, elle est très impulsive.
Voilà, donc
Chaque fois elle épouse ses hommes, au bout de un mois de connaissance ou trois semaines.
Alors ce qui va changer, il faut voir, c'est une petite princesse, son père est l'objet d'un culte absolument délirant, il faut vous le rappeler dans ce livre, au moment de son 70e anniversaire en 49, des cadeaux viennent du monde entier, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, personne n'a été l'objet d'une telle adoration internationale, ça va bien au-delà des frontières de l'URSS, les communistes français envoient des cadeaux à Staline, enfin tout ça, vous pourriez en parler, vous n'avez non pas connu ça, Christophe Donner, mais votre père a dû
oui, stalinien pur et dur.
Voilà, bon, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est la mort de Staline qui va changer les choses. Et surtout, c'est la déstalinisation.
Ah oui,
vous racontez qu'en fait, elle est dans les premières à apprendre les crimes de son père avant même le congrès. Khrouchtchev tient à ce qu'elle sache avant. Évidemment, le rapport sur la déstalinisation n'est pas censé devenir officiel. Il le sera parce que les Américains vont le publier. Mais normalement,
une fuite est passée par la Pologne. C'est toujours par la Pologne que les ennuis arrivent.
Pour l'Union soviétique.
Et c'est arrivé aux États-Unis. Et donc, on l'a su.
Oui. Mais elle, tout de suite.
Et quand elle est très intelligente, sa réaction est étonnante. Elle a dit, ça s'est passé dans la datcha de Mikoyan, et elle descend de premier étage où elle a lu, et avait lu ses papiers, et elle dit, vous savez les gars, tout ça c'est vrai. Et c'est étonnant. Il s'attendait qu'elle tombe par terre, qu'elle hurle, qu'elle pleure, qu'elle dit, mais c'est pas possible. Non, non. Elle commence au fond d'elle-même savoir que Staline détenait vraiment l'essor de tous les citoyens.
Et au fond, ce dont elle a peur, c'est qu'on les associe, qu'on pense qu'elle était complice. Elle s'inquiète pour les communistes en général. Et finalement, elle devient très très mal à l'aise à partir de ce moment-là.
Elle tombe en dépression parce qu'elle se dit, après tout, ma propre famille n'a pas été épargnée. Mais en même temps, elle a très peur quand on l'associe à ses malheurs. Déjà, quand elle trouve quand elle tombe sur Kappler, tout à fait par hasard.
Le cinéaste avec qui elle flirtait et qu'on a déporté.
Elle est soulagée qu'il lui tient pas avec Goehr. Et donc, cet amour qui, au début, était platonique et devient un amour fou qui dure pas très longtemps parce que comme à chaque fois elle va tout gâcher.
Elle veut
qu'il l'épouse. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des femmes qu'on épouse et il y a des femmes avec qui on a une aventure.
Oui, on pourra en parler avec Agnès Grossman. Revenons à son départ. Pourquoi part-elle ? Pourquoi va-t-elle quitter l'Union soviétique en 1967 ? Il y a eu la déstalinisation, mais enfin franchement, le régime est exactement le même. Le goulag est plein. Elle est dans ses repères, normalement. Elle a deux enfants. Pourquoi s'en va-t-elle ?
Parce que l'État se mêle de sa vie privée. Elle tombe amoureuse d'un communiste indien, Bajak Singh, qui est fils d'un Raja. Et qui vient se soigner à Moscou. Beaucoup de communistes venaient se soigner à Moscou parce que la médecine soviétique avait une très très bonne réputation parmi les communistes surtout. Il y en a certains qui sont même venus mourir dans des datchas luxueuses au bord de la mer. Et là, elle veut épouser. C'est son obsession. Elle veut toujours se marier. Et Kosygin et Brejnev disent niet. Et parce qu'entre-temps, elle est devenue un symbole. Et ça lui convient pas du tout.
Elle est encore
impulsive parce que quand elle quitte, d'abord, on ne permet pas de se marier, donc elle trouve cette formule encore une autre. Elle va partir en Inde avec des cendres de Bajaj. Et c'est là où elle aura prendra cette décision hâtive, comme chaque fois. Sauf qu'elle ne savait pas qu'elle va mettre tous les gouvernements du monde entier en embarras, y compris la France. De Gaulle ne voulait pas l'aile.
Mais non, personne. C'est au fond, c'est le transfuge le plus embarrassant depuis
que
Trotsky.
On peut imaginer,
depuis
oui.
Trotsky en 1929, que tout le monde s'était aussi avait tout le monde plus ou moins repoussé. Elle va laisser ses enfants. Elle aura un autre enfant aux États-Unis.
On va lui reprocher beaucoup qu'elle a laissé tomber ses enfants, mais en fait, son fils Ossia avait déjà 22 ans. Il était marié. Et sa fille, la fille de Jdanov, elle avait 16 ans. Et puis, une fois de plus, dans un pays normal, on aurait pu la rejoindre ou elle venir les voir. Mais c'est une fois de plus, il servait d'otage.
Pour finir, vous dites qu'elle est devenue milliardaire et qu'elle a tout perdu.
Parce qu'elle avait aucune notion d'argent, mais elle était d'une générosité, donc elle a distribué partout l'argent, elle a construit un hôpital en Inde.
Mais tout cet argent venait évidemment...
De son premier livre.
Voilà, qui a été un énorme succès, il faut dire, elle est évidemment extrêmement célèbre. Un dernier mot juste, Agnès Grossman.
Je voulais savoir, vous dites qu'elle adorait son père enfant, est-ce qu'il y a eu un moment donné où elle a cessé de l'aimer et quand?
Ah oui, absolument, elle a dit « mon père est responsable et il a brisé ma vie ». Il a brisé ma vie deux fois, la première fois quand il a envoyé Kapler au Goulag, et la deuxième fois quand il a imposé les études d'histoire, c'est-à-dire de Diamat. Alors qu'elle avait ses prétentions littéraires qu'on comprend, puisqu'elle a insisté beaucoup pour écrire ce livre et les publier.
Svetlana, donc, qui est morte en 2011.
Oui, c'est seulement les dernières années que certains archives, documents ont été déclassifiés et que j'ai eu l'accès à ces sources.
La malédiction de Svetlana, c'est le titre du livre de Beata Drobien. C'est paru chez Albin Michel. Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Vincent Badré, l'histoire politisée, point d'interrogation, c'est paru aux éditions du Rocher. Les salopes de l'histoire de Messaline Amatahari, d'Agnès Grossman, c'est chez Acropole. L'homme qui voyait à travers les visages, le nouveau roman d'Éric Emmanuel Schmitt, est paru chez Albin Michel. Et L'innocent, le nouveau livre de Christophe Donner, c'est chez Grasset. Nous, on se retrouve lundi dans un instant, c'est Europe Nuit avec Pierre de Villeneuve.